Vous écoutez
RMC.
Vendredi 19 juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h juste, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Agressé parce que policier, il se confie sur RMC ce matin. Le policier roué de coups à Lyon en début de semaine est traumatisé. Il est toujours à l'hôpital. La convention climat, point final aujourd'hui avant de rendre la copie dimanche au gouvernement. Une des mesures phares, contraindre les propriétaires et les bailleurs à rénover. 5 cas positifs Covid-19 à Saint-Etienne, dont 3 joueurs. L'entraînement du reste de l'équipe aura lieu comme prévu aujourd'hui. Bienvenue à tous sur RMC. Le témoignage d'un homme traumatisé ce matin sur RMC, celui de ce policier passé à tabac dans la nuit de dimanche à lundi à Lyon. 3 personnes, dont 2 adolescents, ont été mises en examen pour violence volontaire. 2 sont derrière les barreaux. La victime de 34 ans a vu sa vie défiler alors qu'il se trouvait avec sa compagne quand il a été violemment agressé. Il s'est donc confié depuis son lit d'hôpital à Gwenaëlle Vendrestin et Valentine Roux.
Cheville fracturée, luxation du talon, ecchymose sur tout le corps. Les blessures d'Alexandre sont physiques, mais aussi psychologiques.
Et que je me retrouve seul le soir, je revis la scène où je manque concrètement de décéder. La nuit, je compte plus les moutons, je compte les coups. Le sommeil est très difficile à trouver.
Fonctionnaire à police secours depuis 15 ans, il affirme que les relations entre les policiers et la population sont de plus en plus violentes.
Mes collègues et moi avons l'occasion de constater qu'il y a de plus en plus d'impunité, de sentiment d'impunité, pas nécessairement d'impunité, mais au moins les gens se sentent impunis de pouvoir s'en prendre à la police.
Encore hospitalisé et arrêté pour 1 mois et demi, Alexandre est traumatisé par son agression, mais il refuse catégoriquement de changer de métier.
C'est ma vocation, c'est une vocation, et pour un homme monde, je voudrais m'en départager. C'est ce que je suis, c'est ce que je ferai toute ma vie. C'est ce qui aide à subir toutes les phrases qu'on subit à l'heure actuelle, tout le lynchage qu'on peut subir, mais oui, ça reste dur.
Effrayé par d'éventuelles représailles, le policier compte déménager avec sa famille dès que possible.
Voilà Alexandre. Il faut m'ouvrir le micro, là.
Ça y est, oui.
Il est ouvert, là? Alexandre, pardon. Alexandre, ce policier, sera en direct avec nous tout à l'heure à 7h10.
Ils ont ingurgité des milliers de pages de rapports, passé des semaines, des mois, rencontré des dizaines d'experts. Les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat vont rendre leur copie verte, verte et urgente. Ces Français tirés au sort se retrouvent aujourd'hui pour 3 jours. Ils mettront leur rapport dimanche au gouvernement. Durant ces 3 jours, ils vont voter pour les mesures qu'ils gardent ou non, Aurélia Manoli.
Oui, des mesures qui proposent des changements à tous les niveaux, de mesures parfois assez radicales, comme cette proposition de réduire la vitesse sur autoroute à 110 km. Ou celle d'interdire tout simplement les vols intérieurs d'ici à 2025 lorsque la destination est accessible par un autre moyen de transport que l'avion. La Convention veut aussi agir massivement sur la rénovation énergétique des logements en l'imposant aux propriétaires et bailleurs, sans quoi ils ne pourraient tout simplement pas louer. Les citoyens souhaitent aussi s'attaquer à la surconsommation. Cela passerait par l'interdiction des publicités pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Enfin, plus symbolique, les citoyens veulent inscrire la lutte contre le dérèglement climatique comme objectif de la République dans la Constitution. Il propose de créer un crime d'écocide également pour toute action ayant causé un dommage écologique grave.
Merci Aurélia. William Ocan est l'un des citoyens de cette convention. Il habite à Nantes. Cet architecte de 33 ans a travaillé sur les thématiques du logement. Il est impatient de rendre concrètes les mesures décidées.
Il y a une certaine impatience de pouvoir enfin transmettre ces mesures. Dans le groupe Se Loger, on avait à cœur la rénovation énergétique globale de l'ensemble des bâtiments en France, de réguler le chauffage et la climatisation dans les lieux publics, et un troisième élément aussi de lutte contre l'artificialisation des sols, de faire attention à où on construit maintenant, et de construire en priorité sur des zones déjà artificialisées. Donc là, on prend les exemples d'anciennes friches industrielles, et surtout, on veut maintenant avoir cette phase-là d'ouverture, de discussion avec tous les Français, quoi.
Et je le rappelle, donc, une fois votées ce week-end, ces mesures sont remises au gouvernement. Emmanuel Macron s'est engagé à les retranscrire soit au Parlement, soit par décret, soit dans un référendum. La taxation du gazole dans le BTP, ce n'est pas le moment de gonfler l'addition. Le gouvernement va reporter d'un an la suppression de l'avantage fiscal sur ce gazole utilisé par les engins de chantier. Al-Qaïda au Maghreb islamique reconnaît la mort de son chef. La France avait annoncé il y a 2 semaines que ses forces spéciales avaient tué l'Algérien Abdel Malek Droukdal. dans le nord du Mali. Dans une vidéo, l'organisation terroriste promet de poursuivre le combat contre les forces françaises et autres en Afrique du Nord et au Sahel. RMC 6h04, la loi Avia contre la haine en ligne retoquée et vidée de sa substance. Le Conseil constitutionnel a largement censuré la proposition portée par la députée de La République En Marche, Laetitia Avia. La loi devait entrer en application dans moins de 15 jours. Objectif, obligé à retirer sous 24 heures des propos racistes, notamment les sages ont jugé que certaines dispositions étaient attentatoires à la liberté d'expression. Laetitia Avia est déçue, mais n'a pas l'intention de renoncer.
Il y a forcément une déception à ce que ce combat n'aboutisse pas. Mais cette décision du Conseil constitutionnel, c'est aussi une feuille de route. Il va falloir reprendre les travaux, échanger à nouveau avec les parties prenantes. Parce qu'il y a un objectif derrière, c'est d'assurer la protection des internautes. Et pour cela, il faut que nous trouvions des solutions applicables. Moi, je vais prendre le temps, le recul nécessaire pour analyser cette décision et voir ce que nous pouvons en faire.
Lundi, l'école sera de nouveau obligatoire pour tous avec un protocole sanitaire largement allégé, vous le savez. Pourtant, certains parents refusent toujours de renvoyer leurs enfants dans les salles de classe. Alfred Orange.
Quand on demande à Estie si ses enfants reprendront le chemin de l'école, elle est catégorique.
Absolument pas.
Du CE1 à la première, elle assure depuis 2 mois les programmes de ses enfants et compte finir l'école à la maison.
Il y a trop d'incertitudes en fait. Et voilà, c'est ça qui me fait peur. Je préfère garder mes enfants si on a attendu jusqu'à maintenant. Encore 2 semaines, ça ne changera pas grand-chose.
Une situation sanitaire qui fait douter Nadia, mère de 2 enfants en primaire. Pour elle, la journée de lundi sera un test.
Je vais voir un peu comment ça va se passer. S'il y a trop de monde, trop d'élèves, je pense que je vais les retirer pour les 15 jours, je les garde à la maison. J'ai peur si jamais ils rattrapent le virus, on ne sait jamais quoi.
Même si ce retour à l'école est obligatoire, les parents qui décident de garder leurs enfants ne seront pas sanctionnés, d'après Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur.
L'école ou le collège accueilleront votre enfant, mais si vous ne le pouvez pas ou si vous ne le voulez pas, nous, en tant que personnel de l'éducation nationale, nous n'allons pas vous chercher des poux dans la tête.
D'après ce professionnel, une simple prise de contact entre la famille et l'établissement suffira à justifier une absence.
Football, la reprise de l'entraînement pour 3 joueurs du club de Saint-Étienne stoppé net. Ils ont été testés positifs au Covid-19. 2 membres du staff sont aussi concernés. Les résultats sont tombés hier, Julien Richard.
Oui, 3 joueurs dont l'identité n'a pas été révélée. Les Verts reprenaient le chemin de l'entraînement officiellement hier, mais 33 joueurs et 21 membres de l'encadrement étaient convoqués dès mercredi pour une batterie de tests médicaux et donc un dépistage du Covid-19. Test PCR qui détecte à l'instant T s'il y a infection et test sérologique qui permet de voir si l'on a été en contact avec le virus. La nature des tests positifs n'a pas été précisée. La Saint-Étienne a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait de cas contractés pendant la période de confinement. Les 5 positifs n'ont pas été en contact pendant cette période. Des cas tous asymptomatiques. Ils ont été mis à l'isolement chez eux, sous surveillance médicale et vont subir des examens complémentaires sous 24 heures comme le veut le protocole de reprise. Saint-Étienne doit disputer la finale de la Coupe de France fin juillet face au Paris Saint-Germain.
L'entraînement pour le reste de l'équipe aura bien lieu comme prévu aujourd'hui.